c'est bizarre parce que tout le monde voit les red flags. À peu près tout le monde, allant jusqu'à Goldman Sachs, en passant par le gouvernement suédois, dit c'est pas le temps de mettre de l'argent là-dedans, ou dit non, ou disons c'est plutôt le temps de se retirer. Mais le gouvernement du Québec a toujours pas laissé entendre c'était quoi sa stratégie, ne serait-ce que ça pour récupérer l'argent des contribuables ou pour éviter qu'on en risque davantage.
Tu sais, avec Northvolt, là, nous, on apprend ça là, dans les dernières semaines, mais les problèmes, là, quand Fitz a rencontré François Legault là, pour dire bon, je me fais démissionner. Est-ce qu'on était au courant que ça s'en allait dans le mur Northvolt, puis Fitz ne voulait pas s'exposer à ce niveau-là?
Bien, on savait déjà que les états financiers de Northvolt étaient beaucoup moins reluisants que ce qu'on avait vu au courant de l'année précédente. On avait des pertes de pas loin de 1,5 milliard déjà pour Northvolt, qui étaient des pertes qui étaient quasiment 5 fois plus élevées que l'année précédente. On apprenait même juste avant que Fitzgibbon annonce là, officiellement son auto-démissionnage, on avait appris qu'il y allait avoir des délais de pas loin de 18 mois, en fait, là, pour le fameux projet. Donc, il y avait déjà plusieurs signes assez importants à ce niveau-là. On savait aussi que les projets d'usines aux États-Unis n'allaient pas bien. La preuve, c'est que c'est même là que Northvolt s'est mis sous la protection de la loi sur les entreprises. Essentiellement, ils se protègent de leurs créanciers dans une possibilité de faillite. Là, la loi, c'est la loi 11, là, que ça s'appelle comme tel, c'est une dispositive pour les protéger d'une quelconque forme de liquidation, ne serait-ce qu'immédiate. Donc, tu sais, ça, c'était déjà tout en train de s'en venir. Et malgré tout, on a continué à mettre le pied sur l'accélérateur. On refusait même de réoctroyer des blocs d'énergie qui avaient été donnés à Northvolt à des entreprises locales qui en ont besoin, soit pour réduire leurs émissions ou juste pour assurer l'expansion de leur production. Donc, à tous les niveaux, on a continué à mettre le pied sur l'accélérateur malgré les drapeaux rouges.
Mais c'est hallucinant de voir à quel point ils sont incapables d'admettre qu'ils ont peut-être erré. Là, tu me dis qu'ils croient encore en Northvolt. Visiblement, ça va pas si bien que ça. Ils vont perdre la face, puis pas à peu près. Puis je sais pas si tu as écouté les débats à l'Assemblée nationale, mais ils se sont un peu coltaillés, François Legault, avec le chef par intérim, Marc Tanguay, du Parti libéral du Québec. François Legault avait dit « Ouais, ben là, je comprends que Marc Tanguay n'a jamais été en affaires. » C'est comme si lui, parce qu'il avait été en affaires, fallait y donner une certaine crédibilité, et l'autre d'y répondre « Ouais, mais j'étais un avocat qui était justement à régler des litiges en affaires, donc des problèmes, là, j'en ai réglé de vos problèmes, des hommes d'affaires. » Tu sais, on dirait qu'on s'en sortira pas. Ils sont incapables d'admettre qu'ils ont fait une erreur, Nick. Incapables.
Ben non, t'as totalement raison. Puis je trouve que c'est un petit peu poussé des fois de reprocher à l'autre, à Marc Tanguay, de ne pas avoir été en affaires. Un avocat, c'est par définition quasiment un homme d'affaires. Là. C'est pas mal un travailleur autonome ou ça travaille dans des cabinets en partenaire. Mais il y a aussi le fait que, genre, comment dire ça? Je veux dire, Legault n'a pas nécessairement une feuille de route impeccable en tant qu'homme d'affaires non plus. Il a quand même quitté Air Transat avec un délit d'initié pour aller en politique par
exact.
La suite. Je veux dire, c'est pas tout à fait une pratique qui est très, très honorable, on va dire ça de même.
Il a trahi ses chums pendant la nuit, puis il est devenu millionnaire avec ça.
Ben c'est ça. Donc, on dit, c'est bien beau être un homme d'affaires, mais ça veut pas tout dire comme tel. Puis, je veux dire, à la fin de la journée, Fitzgibbon aussi, c'est un homme d'affaires aguerri. Et pourtant, on voit que plusieurs de ses décisions n'ont pas nécessairement porté fruit. Ou sinon, on voit à quel point ils ont la difficulté à s'installer, que ce soit Northvolt, Lyon Électrique, Taiga, la filière électrique au grand en général. Mais on pourrait rappeler aussi toutes les autres, montants qui ont été mis par Fitzgibbon auparavant, que ce soit le Flying Wells, dans l'histoire des fameux dirigeables qui s'en venait au Québec, qui serait éventuellement construit pour faire un genre de système de navette dans le Nord. Je veux dire, il y a plein d'idées comme ça dans lesquelles on a mis des centaines de millions, voire des milliards de l'argent des contribuables, puis au lieu de reconnaître que c'est une erreur, que la moyenne au bâton du gouvernement, comme Legault aime souvent le rappeler, est absolument mauvaise, ben non, effectivement, ils continuent à aller de l'avant. Puis
mais Nicolas, pourquoi? Pourquoi à la base, même le fait de continuer d'aller de l'avant, c'est une chose, mais pourquoi à la base... On est allé là. Y avait-tu une urgence d'être innovateur pour des subventions X? Y avait-tu une urgence d'être innovateur pour qu'une contribution du fédéral, admettons, ou du provincial se mixe dans un projet à quelque part? C'était quoi cette urgence-là? On dirait que c'est comme une gang de créatifs qui se sont mis autour d'une table et ont dit ça serait le fun, mais qui n'ont pas été entourés de gens en économie autour d'eux, là.
Ben oui, effectivement. Ben je pense que la meilleure réponse que je pourrais te fournir là-dessus, c'est qu'ils sont vraiment ils sont mis d'une manière ou d'une autre dans une forme de course nord-américaine pour lancer la filiale électrique québécoise. Dans le contexte actuel, on sait que pas mal plusieurs pays se lancent dans l'électrification. Tout le monde voit à quel point ça va être une industrie extrêmement importante, les voitures électriques dans le futur. Donc, se positionner maintenant, effectivement, c'est stratégique pour les prochaines décennies. Et ils espéraient aussi tirer leur épingle du jeu parce que pourquoi il y a autant de subventions qui ont été faites? C'est essentiellement parce que les Américains se sont mis à en donner beaucoup aussi sous l'administration Biden. Notamment, j'en avais déjà parlé auparavant, la fameuse Inflation Reduction Act ou l'IRA, qui fait en sorte que le gouvernement américain s'est mis à dépenser des dizaines et des dizaines de milliards en subventions pour justement financer les énergies renouvelables, puis les usines à batterie, puis les voitures électriques. Et donc, le gouvernement canadien, ainsi que celui de l'Ontario et du Québec, ont suivi à peu près le même type de processus de leur côté pour rester compétitifs et continuer à attirer des gros joueurs, que ce soit Volkswagen, Northvolt, Stellantis. Donc, on parle beaucoup de Northvolt puis de la filière électrique québécoise, mais il faut rappeler qu'au courant des deux dernières années au Canada, voire des trois dernières années, on a mis pas loin de 40 milliards dans la filière électrique canadienne. Et tout ça était en parallèle avec ce qui se faisait aux États-Unis. Or, là, on sait que la nouvelle administration de Donald Trump va vouloir fort possiblement se débarrasser de la fameuse Inflation Reduction Act. Donc, tous les programmes de subvention vont prendre fin tranquillement aux États-Unis. Et les programmes de subvention qui étaient au Canada sont conditionnels à ce que cette fameuse IRA reste valide aux États-Unis. Donc, dès que les Américains s'en débarrassent, de notre côté, on s'attend à ce que ça prenne fin également. Ça va aussi sonner pas mal là, la fin de la récréation pour les subventions, justement, à Northvolt, Stellantis et Volkswagen, qui reçoivent tous leurs subventions sur cette condition précise. C'est-à-dire que si jamais l'Inflation Reduction Act prend fin, Mme Fréchette, de la ministre de l'Économie, l'a déjà dit elle-même, il n'y aura pas de subventions supplémentaires, notamment au niveau des batteries électriques qui sont produites par les différentes usines au Québec. Donc, ils ont essayé de saisir cette opportunité-là. Ils ont vu à quel point notre voisin américain était pas mal plus compétitif et aussi pas mal plus direct dans sa manière de subventionner. Donc, on essaie de lever la barre un peu plus haut. Et finalement, on se retrouve dans une situation où on a un paquet de projets qui battent de l'aile. Un voisin américain qui va se débarrasser de ce fameux programme, qui va nous forcer à faire pareil. Et là, on a en plus des finances publiques au Québec qui sont pas tout à fait reluisantes. Même chose au fédéral. Donc, on se retrouve vraiment dans une très mauvaise situation. Et c'est d'une part, oui, le fait de vouloir saisir l'opportunité pour pas manquer le bateau au niveau de cette nouvelle industrie en Amérique du Nord. Mais ça vient aussi du fait qu'il y a une certaine obsession politique. On va se le dire franchement. François Legault espère forger son héritage politique via la filière électrique. On peut pas non plus faire son héritage politique uniquement sur la question d'éliminer notre écart avec l'Ontario. Donc, j'imagine que François Legault essaie d'aller un peu plus loin. Mais dans sa tentative de créer une économie verte, il pourrait avoir un peu saboté l'économie en général. Donc, c'est pour ça qu'on espère qu'il va lâcher, il va mettre le pied sur le frein sur sa filière électrique puis se concentrer sur le rééquilibre des finances publiques éventuellement.
Nick, il y a un organisme que je vais surveiller. Là. Je vais faire mon journaliste d'enquête que je n'ai jamais été. Encore un grand regret de mon côté. Mais avec ce que Trudeau a fait au fédéral pour ce qui est du cadeau de TPS, je vais surveiller au Québec la SAQ. Est-ce qu'on va descendre le prix des bouteilles de 5 % ou non à partir du 15 décembre? Faut les watcher, ces gens-là.
Ben oui, faut surveiller ça parce qu'effectivement, officiellement, la bière et le vin, donc tout ce qui est en bas de égal ou inférieur à 7 % d'alcool est supposé être touché par le congé de taxes. Donc oui, il va falloir observer ça. En fait, il va falloir observer les prix dans à peu près tous les commerces parce que c'est, je veux dire, aussi niaiseux que ça puisse paraître, c'est quand même une petite fenêtre de temps pour plusieurs commerçants pour être en mesure de s'adapter à ce changement-là, à ce cadeau que je peux dire, une petite saveur empoisonnée, mais qui est quand même bien reçue. On s'entend qu'un congé de taxes, nous-mêmes à la Fédération, on trouve que c'est appréciable. Mais de l'autre côté, c'est un congé de taxes qui est temporaire et qui vient pas non plus avec une forme de correction au niveau des dépenses du gouvernement, parce que le gouvernement de Trudeau va se priver de revenus pour offrir un petit cadeau pour deux mois. Mais il va continuer à dépenser puis à dépenser quand même. Donc, au final, on va pelleter par en avant vers un déficit plus important et des dépenses plus importantes à l'avenir. Mais il n'en reste que oui, il va falloir rester vigilant. Quand ça reste un cadeau intéressant, c'est 1,6 milliard qui va être donné. Là, c'est le montant approximatif dont on devrait être en mesure d'épargner entre le 15 décembre ou plutôt le 14 décembre et le 15 février. Là, je suis pas sûr de mes dates exactement, mais il va falloir rester vigilant à ce niveau-là puis s'assurer qu'on a le droit à la fameuse exemption en bonne et due forme.
Mais c'est ça, parce que la SAQ, les taxes sont incluses dans le prix. Fait qu'ils vont-tu faire une modification ou bien ils vont laisser ça de même?
Ben, officiellement, ils sont supposés faire simplement une modification du prix comme tel. On s'entend que dans le prix du vin, en plus, pas loin de 75% du prix, ce sont des taxes. Donc, on va peut-être voir une petite amélioration à ce niveau-là. Il y a quand même d'autres taxes qui ne sont pas affectées non plus. Il y a une taxe d'assises fédérale sur l'alcool qui n'est pas affectée, mais qui reste valide. Il y a les taxes d'assises provinciales également. Donc, à ce niveau-là, oui, on devrait pouvoir observer une petite réduction. Bien sûr, ça ne touche pas tous les alcools, ça touche que les alcools qui sont en bas de 7 %. Donc, une bouteille de whisky va être au même prix le 16 ou le 15 décembre, ça, il n'y a aucun risque. Donc, oui, il va falloir rester vigilant là-dessus. Puis sinon, on sait que dans le reste du Canada, ça va s'observer de cette manière-là, inévitablement.
Parce que, tu sais, le break pour ce qui est des restaurants, je trouve ça intéressant. Pendant le temps des fêtes, ça va bien se prendre pour les citoyens. L'eau embouteillée, c'est correct aussi. Les livres, c'est correct, mais... La bière, les chips, les bonbons, les trucs, les desserts, les pâtisseries, les biscuits, les beignes. Alors qu'on se dit que les gens sont pas en shape à la grandeur du Canada, on était-tu vraiment obligé d'embarquer là-dedans?
Ben, on s'entend que la mesure comme telle, elle a une petite saveur clientéliste parce qu'on fait ça pour le temps des fêtes et on regarde tous les produits qui sont ciblés. On regarde le sapin de Noël qui est exempté de la TPS. On regarde des consoles de jeux vidéo. On regarde les sucreries puis effectivement la malbouffe. Donc on parle mettons aux familles, aux gens qui effectivement là, vont simplement faire l'épicerie et vont pouvoir avoir un peu plus de marge de manœuvre, ne serait-ce qu'ils vont voir des prix à 5 % moins élevés. Par contre, moi, j'ai quand même dénoncé le fait que c'est des mesures ciblées. Encore une fois, on préfère cibler quelques produits qui sont non essentiels plutôt, ben, même si quand même la nourriture, elle l'est, là, mais le point est qu'il aurait pu faire une mesure beaucoup plus vaste, simplement, littéralement faire un congé de TPS, ne serait-ce que, non pas temporaire, mais permanent, et faire en sorte que ce soit pas une mesure si clientéliste, parce qu'à la fin de la journée, le 15 février prochain, les prix vont tous augmenter de 5 %. C'est comme si le gouvernement du Canada reconnaissait que le coût de la vie était trop élevé entre le 15 décembre puis le 15 février, mais après ça, c'était bien correct de repayer 5 % de plus. Et c'est drôle parce que c'est pas juste le congé de TPS, que lui, il y a aussi une distribution de chèques de 250 $ pour toute personne qui fait moins de 150 000. Donc, c'est tout un cadeau qui arrive, mais c'est drôle parce qu'ils vont livrer ce cadeau-là en avril. Et en avril, ben, on sait que les taxes augmentent au fédéral. La taxe d'assises sur l'alcool, notamment, elle augmente. La taxe sur le carbone, elle augmente aussi pour le reste du pays. Donc, au même moment où est-ce qu'on augmente les taxes encore une fois, ben, on va distribuer un chèque aux gens pour essayer de leur faire oublier qu'on vient d'augmenter les taxes à nouveau. Donc, clairement que c'est une belle stratégie pour étirer le temps et essayer de maintenir le gouvernement au pouvoir jusqu'en octobre prochain. Ceci étant dit, un cadeau, c'est un cadeau. On va prendre l'exemption de la taxe, mais ça a été beaucoup plus approprié si ça a été une exemption plus permanente. Et surtout, s'il y avait eu en plus un effort de la part du gouvernement pour, oui, on se prive des revenus, mais il faut aussi réduire les dépenses. Et ça, c'est un exercice que le gouvernement Trudeau n'a jamais fait.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, un gros merci. On se reparle la semaine prochaine, mon ami.
C'est toujours un plaisir. À très bientôt.
Bye-bye. Pour en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca. Sur la route, ça se passe bien, Pascal?
Oui.
Bon, d'ici là, s'il se passe quoi que ce soit, les amis, 418-971-1021, 418-971-1021, c'est par texto. Nous autres, on vous souhaite à tous un excellent lundi. On va venir après, donc restez là. Mais on vous pousse dans vos oreilles, le band Muse Starlight sur Boulevard.